la première partie, j'ai invité Eva Thomas. Bonjour Eva.
Bonjour.
Et Martine et Dorothée de l'association Arévie.
Oui, bonjour, ça c'est Martine.
Bonjour.
Donc pour parler de l'inceste et des ravages que ça peut faire, et de la loi aussi, de la parole et de la loi, ce qui est absolument fondamental, puisque des choses extrêmement graves se passent actuellement à ce niveau-là. Donc Eva Thomas, vous avez écrit un livre déjà en 86, c'était Le viol du silence, bon, qui a eu un très gros retentissement, où là vous racontiez votre histoire.
Je racontais mon histoire, l'histoire de ce qui s'est passé avec mon père quand j'avais 15 ans, et puis en fait j'essayais de c'était un cri quoi, ce livre là c'était un cri pour pas mourir, et puis pour que les autres femmes parlent aussi. Enfin, je crois que j'ai écrit ce premier livre, j'ai écrit le livre que j'ai cherché partout dans les librairies et qui n'existait pas à cette époque là
parce que c'était encore tabou,
c'était complètement tabou en 86. Et en fait en 85 j'avais créé l'association SOS Inceste justement pour qu'on parle, pour qu'il y ait un lieu d'écoute pour les victimes. Et ben j'ai été prise dans un tourbillon médiatique à ce moment-là, et donc il y a eu un progrès de la parole des femmes. Et en 89, on était 4 victimes à parler à visage découvert à la télévision, puisque moi j'avais été la première en 86, mais la parole se libérait, donc nous étions toutes contentes, enfin, on avait l'impression que ça progressait et tout. Et puis le père de l'une d'entre nous a porté plainte en diffamation, et il y a eu un procès à Saint-Brieuc. Où effectivement, alors là on a découvert que la prescription c'était non seulement perdre le droit de porter plainte contre le violeur, mais c'était aussi l'interdiction d'en parler en public. Donc j'ai compris que tout ce que j'avais fait depuis 86 était interdit par la loi. Je suis allée à Saint-Brieuc défendre mon ami au procès, et là j'ai vu la justice française à l'envers, avec le procureur qui défendait le violeur. Et la victime et TF1 au banc des accusés.
Alors l'avocat d'ailleurs de la victime résume la situation. Le père vient demander publiquement réparation en honneur et en argent des viols qu'il a commis sur sa fille. Quel raccourci stupéfiant.
Enfin, je pense que pour moi ça a été la journée la plus horrible de ma vie.
Ah ben ça sent dans l'écriture du livre. Alors justement c'est ça qui vous a fait reprendre le combat,
oui, c'est-à-dire que,
et reprendre la plume.
Oui, c'est-à-dire que, et, pas comme ça, parce que...
Comme si ça vous était arrivé
moi,
à vous-même.
C'est comme si on m'avait fusillé ce jour-là. Parce que, pour moi, une victime d'inceste, la seule chose qui lui reste, c'est justement sa parole, et c'est de pouvoir être auteur de son histoire. Et moi, je m'étais tellement battue...
Et reconnue comme victime.
Oui, mais déjà, être auteur de son histoire, c'était interdit. Donc ça, si vous voulez, c'est le seul piton qui reste. Et si on vous l'enlève, c'est vraiment la folie et la mort. Donc moi, je me suis effondrée physiquement. Donc je suis restée un an et demi en congé maladie avec des problèmes de tension. C'est-à-dire je ne tenais pas debout, j'avais des vertiges et tout ça. Donc j'avais un corps qui somatisait avec du sens, en fait. Et puis donc avec des magistrats, parce qu'on avait beaucoup travaillé à l'association avec des psys, des magistrats, on a cherché une faille dans la loi qui me permettait de faire inscrire dans le champ judiciaire ce qui s'était passé malgré la prescription. Donc j'ai demandé un changement de prénom parce que mon père m'avait violée. Et pour avoir une identité neuve, une identité saine, et pour devenir une fille de la loi. Et ça a été miraculeux. C'est-à-dire que bon, la demande a été acceptée.
La nouvelle Ève
Je m'appelais Eva. J'ai demandé à m'appeler Eva, qui était un pseudonyme sur ma carte d'identité. Et en fait, ça a été spectaculaire. J'ai retrouvé toute ma tête, toute mon énergie, toute ma santé. Et j'ai écrit le sang des mots à partir de ce moment-là.
C'est à partir de ce moment-là. Oui. Et là, on sent que c'est un cri, un débordement, un flot ininterrompu. Et la façon dont vous racontez ça, puisque vous parlez... finalement de vous à travers les différentes victimes que vous citez dans ce livre. Et
oui, depuis 86, entre 86 et 92, en fait, moi j'avais rencontré des centaines de victimes d'inceste qui disaient toutes la même chose. Et en fait, on était donc chargés de transmettre, enfin moi je me sentais chargée de transmettre pas seulement ma parole, mais toute cette expérience extraordinaire qu'on avait fait à l'association. Et aussi cette expérience de recherche avec les psys, avec les magistrats, les avocats, etc. Donc ce livre, c'était un travail de transmission, quoi.
Voilà. Mais un travail de transmission et aussi pouvoir donner la parole de recherche, mais en donnant aussi la parole aux victimes. Et c'est ça qui est important. Et alors, expliquez comment vous l'avez écrit, parce qu'il y a des passages différents. Oui, et alors, on est assez déboussolé en lisant. Enfin, c'est tout à fait étonnant, parce qu'on est pris aussi par ce flot.
C'est-à-dire qu'il est construit avec deux écritures différentes. Il y a une écriture de recherche, je dirais, rationnelle, qui pose toutes les questions à la société. Et puis, il y a des écritures plus poétiques, qui sont des vrais cris, qui sont ce que j'ai écrit après le procès de Saint-Brieuc et le moment où j'ai changé de prénom. Ces petits textes-là, ils viennent de... Parce que je ne pouvais pas écrire et je fabriquais des momies avec... des sculptures de papier avec le manuscrit du Sang des mots. Et en fait, au fur et à mesure que je fabriquais ces sculptures, il y avait des textes qui venaient. Et c'est ces textes-là qui sont en italique, qui sont des textes vraiment du fond de l'âme, je dirais, et qui parlent très fort apparemment aux autres victimes.
Oui, c'est tout à fait bouleversant d'ailleurs de le lire, et parce que je pense que pour des personnes qui n'ont pas vécu ce drame, on ne se rend pas compte de la portée mortifère.
Oui, je pense que le père qui viole sa fille c'est comme s'il mettait dans son corps des forces de mort avec laquelle après la victime doit vivre, doit combattre avec ça, elle doit se débrouiller avec ça. Et en fait, ce qu'on ne dit pas assez, c'est que beaucoup de victimes font des tentatives de suicide et que beaucoup en sont mortes et elles sont plus là pour parler. Enfin, je dirais même quelquefois elles sont battues longtemps, elles ont milité dans les associations et elles finissent par se suicider. Enfin, moi, ma meilleure amie qui était la présidente de SOS Inceste Paris, elle a fini par se pendre un jour. Et je trouve que ça, c'est absolument horrible. Elles ne sont plus là pour parler, celles-là.
Elle n'avait pas été entendue ?
En fait, si, elle avait fait... Non, elle n'avait pas eu de procès. Elle n'avait pas eu droit à la loi. Non, elle n'a pas fait de procédure judiciaire, toujours à cause de la prescription. Et en fait, si vous voulez, je pense que la procédure judiciaire, ça, c'est quand même un cadre qui nous protège.
C'est le premier chapitre, la parole et la loi. Alors c'est ça qui est important, oui. Si vous pouviez développer cet aspect-là, parce que
c'est l'impression justement que
de l'importance.
C'est comme s'il fallait marcher. Vous le direz aussi peut-être. Moi, j'avais l'impression de marcher au bord du vide tout le temps. Et en fait, ce qui protège du vide est cette espèce de fascination de la mort, parce qu'en fait la mort, si vous voulez, pour une victime d'inceste, c'est ce qui va enfin arrêter sa souffrance. Donc la tentation, elle est très très forte. Pour plus souffrir, il suffit de se tuer. C'est simple, hein. Et en fait, on doit tout le temps lutter contre ces forces qui sont en nous. Par contre, on est protégé à partir du moment où c'est inscrit dans la loi. Et ça, c'est les gens ont beaucoup de mal à comprendre.
Vous portez plainte, oui, vous êtes reconnu comme victime.
Parce qu'il y a une efficacité symbolique qui vous permet de vous réenraciner dans une identité propre, saine, droite.
Enfin, dans le cas juste. Où la justice fonctionne.
Oui, dans le cas où la justice fonctionne.
Dans le cas où
fonctionne,
on arrive à reconnaître à l'endroit, que la victime est bien victime et où on arrive à dépasser toutes les difficultés des procédures, la difficulté d'établir des preuves, parce que quand on porte plainte 20 ans ou 15 ans après les faits, forcément il n'y a plus de traces quasiment. Enfin,
difficile de, c'est votre de parole contre la sienne.
Oui, d'une certaine façon, c'est ça, oui. Et donc là, c'est extrêmement difficile. Et même quand les enfants portent plainte, au moment où ils sont encore victimes des faits, de toute façon, les procédures sont aussi compliquées. Parvenir à établir une preuve, c'est extrêmement compliqué dans la justice française pour les victimes d'inceste.
Ouais. Mais je pense que le fait d'avoir été entendu par des avocats, par des gens de la justice, même si ça n'aboutit pas complètement à ce qu'on...
Ça veut dire que vous êtes reconnu.
Ça veut dire déjà qu'on est entendu dans le champ judiciaire en tant que victime. Et ça, c'est très très important. Moi, je connais des victimes pour qui ça s'est terminé par un non-lieu, mais le fait qu'elles aient quand même eu droit à être entendues dans le champ judiciaire, ça les a quand même aidées et portées pour la suite. Contrairement à d'autres qui n'ont rien. Enfin, en plus, non seulement rien, aucune aide judiciaire, mais en plus avec l'interdiction d'en parler. Et ça, cette interdiction d'en parler, je pense qu'il faut vraiment que la société change par rapport à ça.
Parce que c'est inimaginable. J'étais étonnée en lisant votre livre, parce que je pensais quand même que ça avait évolué. puisqu'on avait déjà retardé le délai de prescription.
Oui, on a prolongé le délai de prescription de 10 à 20 ans après la majorité. Donc, ce qui fait que les personnes qui ont jusqu'à 38 ans maintenant pour porter plainte, mais toutes les autres, elles sont déboutées et elles sont, elles n'ont aucune aide de ce côté-là. Quoi.
Et elles peuvent même être attaquées.
Le problème, c'est qu'elles
peuvent être attaquées. En
diffamation. C'est-à-dire qu'on a une épée de Damoclès tout le temps. Parler, c'est risquer une attaque en diffamation. Et c'est ça qui est insupportable, parce que le droit est du côté des violeurs, il n'est pas du côté des victimes de cette façon-là. Et c'est ça qu'il faut retourner. Il faut absolument que le droit retourne du côté des victimes.
C'est pour ça que ça a été tabou si longtemps, hein, puisque ça se passait dans le privé familial.
Dans
donc
le secret
on ne touche
des familles,
pas,
oui.
On ne touche pas à la famille, pilier de notre société patriarcale, n'est-ce pas?
Oui. Oui, d'ailleurs, par exemple, avec l'affaire Dutroux actuellement, on le voit bien. Dutroux, c'est un pédophile. Il a commis des abus sexuels sur des enfants et il n'est pas de la famille des enfants en question. Donc, il y a un amalgame qui est fait entre les abus sexuels, la pédophilie et l'inceste. Et enfin, c'est même pas un amalgame, c'est qu'on se met derrière le mur de la pédophilie. C'est-à-dire, oui, ça arrive ailleurs, mais pas dans notre famille.
Pas chez nous,
voilà.
Bien sûr.
C'est ça. Et la société, ça fait 20, 30 ans et même plus que ça a toujours été comme ça. Et on voit, enfin, on espère que la société grandit, qu'elle devienne de plus en plus intelligente et qu'elle va prendre fait et cause. Mais bon, nous, on n'en voit pas. Enfin, nous, à l'association, on reçoit on a un groupe de parole avec des victimes où la parole est libre. Hein. Eh ben, on le voit, quoi. Les victimes sont, voilà, elles font le même constat que nous, quoi. Voilà,
oui.
On fait le même constat, quoi.
Assumer sa parole, voilà. Cette parole-là socialement, c'est toujours aussi difficile. Et aussi parce que, on devient orpheline, c'est-à-dire attaquer sa famille, enfin attaquer son père, attaquer sa... c'est aussi attaquer sa mère, ses frères et sœurs, on attaque tout le monde. Et en fait, il faut une force considérable pour s'attaquer à ça.
Oui, puis c'est renier tout son passé aussi, c'est pas vouloir se couper complètement de tout son passé.
C'est pas qu'on veut se couper, on veut pas se couper, mais c'est eux qui nous coupent. Enfin, je veux dire, parce qu'ils ne supportent pas cette vérité-là.
Et ça doit être aussi insupportable d'être dans une famille comme ça. Parce que quand on est victime de son père, le père, il n'est pas tout seul dans la famille.
Oui. Il est aussi le père des autres enfants.
Il est le père des autres enfants. Et puis, il y a une mère aussi. Mmh. Et la mère. Parce que vous en parlez dans votre livre.
Oui, la mère, elle est assez souvent complice, enfin active ou passive. Plus souvent passive qu'active, mais quand même, Et donc, ce qui fait que quand une victime commence à parler, en fait, elle devient vraiment orpheline, parce que souvent, la mère prend le parti du père, et à ce moment-là, on n'a plus ni père ni mère. Quoi.
Là, on parle des agressions sexuelles que commettent les pères sur leurs
filles.
Il faut quand même aussi parler de toutes les autres situations qui sont numériquement très très importantes, qui sont que un enfant dans une famille peut être violé par ses frères, par ses oncles, par son beau-père,
par son grand-père,
par le grand-père,
par la mère aussi.
Par la mère aussi,
c'est plus rare, mais ça existe.
C'est plus rare, mais ça existe aussi, oui. Par les sœurs, ça arrive aussi. Enfin, toutes les cas de figure de
alors, est-ce qu'on peut dégager un type de famille particulier? Est-ce qu'il y a une pathologie?
Dégager la répétition de génération
la
en génération.
La pathologie principale, ce sont des familles fermées. Je ne sais pas si c'est une vraie pathologie, mais en tout cas, c'est une famille fermée en général. Quoi. C'est-à-dire qu'elles ne parlent pas, ce ne sont pas des gens qui ont beaucoup d'amis, c'est des gens plutôt refermés sur eux en général. Mais c'est une généralité, ce que je dis. Il y a des cas particuliers.
Ce qui se retrouve dans les associations, quand on a des centaines de lettres, en fait, c'est qu'il y a une répétition de génération en génération et que souvent, hélas, l'abuseur a lui-même subi des abus quand il était plus jeune. Et donc, c'est pour ça que la loi, si vous voulez, la loi, elle permet de faire un ménage généalogique et de faire un travail symbolique pour remettre chacun à sa place et pour poser l'interdit. Parce que quand on pense que dans la loi française, eh bien, l'interdit de l'inceste n'est même pas inscrit. Le mot inceste n'existe
pas. Ça, oui.
Et ça, c'est une bataille future. Il faut absolument qu'on fasse changer la loi à ce niveau-là. Et qu'il y ait une loi qui pose vraiment l'interdit.
Là, vous écrivez, là, dans la partie lyrique, on va dire, fantasmatique, je ne sais pas, délirante ou...
comme vous voulez, oui.
Il y a tout ça en même temps. Hein. Que faire quand le savoir officiel est cousu de mensonges inconscients qui camouflent la faute du père? mensonge inconscient. Donc toute la famille s'y met et la société tout entière pour soutenir.
Le système de camouflage était très 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 au point dans les années, jusque dans les années 86. Hein. Pour parler, il fallait...
Mais là, je crois qu'il faut être clair, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de profil type de famille incestueuse. C'est n'importe qui, votre voisin de palier, votre... si vous avez des enfants, c'est... une classe, c'est statistique, il y a forcément... Enfin, maintenant, les classes sont mixtes, mais il y a au moins une petite fille par classe... ou un petit garçon qui est victime. Et justement, ça serait si c'était si simple de faire... Enfin, les gens feraient des signalements, les voisins, les copains, et c'est pas le cas, c'est extrêmement difficile, il n'y a pas de profil, c'est pas écrit.
Problème. Ils sont insoupçonnables dans le sens où ce sont des bombeurs de famille à l'extérieur.
Et ça peut être des notables.
Oui, ça peut être des notables, il y en a dans toutes les classes sociales.
Oui, c'est la deuxième caractéristique. Ouais. Dans toutes les cultures, dans toutes les sociétés du monde et dans toutes les classes sociales. Et ça,
Il y a quand même, par exemple, en France, sur l'inceste, on sait bien que les statistiques sont très faussées. Parce que, par exemple, les statistiques sont tirées de tous les tribunaux. Hein. Et donc, on sait bien qu'en général, les gens qui osent porter plainte, ce sont les filles ou les garçons qui portent plainte, ils sont souvent issus de familles ouvrières ou pas aisées, etc. Parce que dans les familles aisées, on ne porte pas plainte.
Non.
Donc, c'est pour ça que les statistiques sont
faussées. Pareil pour les violences, c'est les femmes battues.
Exactement. Et donc, du coup, il y a des gens qui sortent des livres sur l'inceste. Je pense à quelqu'un là qui vient de sortir un livre. Je ne sais pas ce qu'il est, il est expert, quelque chose comme ça, où il dit que c'est souvent dans les familles d'ouvriers ou pauvres, etc., que ça se passe. Mais ce n'est pas vrai. C'est parce que cette personne a été dans les tribunaux, il a fait les tribunaux, je ne sais pas lesquels, mais enfin bon. Et puis il a sorti tous les dossiers d'inceste, effectivement. La plupart du temps, ceux qui ont le courage de porter plainte, c'est les gens dans les familles d'ouvriers, etc., parce qu'ils n'ont rien à perdre.
Et puis ils sont aidés.
Il n'y a pas d'héritage. Il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas d'héritage dans une famille où on n'a pas d'argent.
Non, mais statistiquement, il y a beaucoup plus de gens issus des classes défavorisées que de riches ou bourgeois aussi. Enfin,
logiquement. Non, mais il y a peut-être aussi le travail des services sociaux dans les classes défavorisées qui font que...
On repère beaucoup mieux les enfants en difficulté de ce côté-là. Oui.
Tandis que nous, dans notre association ou dans le groupe de parole, on est de toutes classes sociales confondues. Mais effectivement, ça, c'est pas dans les tribunaux, puisque la plupart des victimes n'ont pas pu porter plainte à cause de la prescription, parce que il faudrait peut-être dire un mot sur pourquoi on ne porte pas plainte quand on est plus jeune. Parce que les impossibilités, les causes, etc., parce qu'il y a des causes pourquoi on ne porte pas plainte. Donc tous ces gens qui viennent, les victimes qui viennent en groupe de parole, elles sont issues de n'importe quel milieu, quoi. Mais c'est pas inscrit dans les tribunaux, puisqu'il n'y a pas eu de procès. Donc ces statistiques-là, qui les connaît? Personne.
Mais là, Eva Thomas, là, vous, dans votre livre, on va rappeler quand même, c'est le sang des mots, les victimes de l'inceste et la loi, c'est publié chez Desclée de Brouwer. Hein, vous expliquez bien le phénomène de terreur aussi que le père incestueux, il y a amour-haine en même temps, et qui fait que ça paralyse complètement l'enfant.
Oui, puis
et ça fonctionne aussi comme une dictature. Oui, il y a aussi toute cette... moi, qui m'a beaucoup impressionnée, puisque vous avez rencontré des victimes de camps, et elles ont le même vécu que des victimes de l'inceste.
En fait, oui, au moment où je ne pouvais plus écrire, en fait, les seuls livres qui me parlaient, c'était tous les livres sur les camps de concentration. Et j'en ai lu plein, et je ne comprenais pas pourquoi j'étais attirée par... Et en fait, dans ces paroles-là, je retrouvais... mes propres souffrances, mes angoisses, etc. Et je pense qu'après, en discutant beaucoup avec d'autres psys et tout, il y a un fonctionnement de dictature dans les familles.
Voilà, c'est ça, j'avais...
Et c'est à ce niveau-là qu'il y a des choses qui sont proches. Et puis, en fait, je pense qu'il y a un phénomène de terreur.
Voilà,
et aussi
c'est ce que
de culpabilité. Parce que l'enfant, pour pouvoir garder un père à l'intérieur de lui, il prend toute la culpabilité sur lui. Il y a une identification à l'agresseur. Et en fait, c'est la victime qui se sent coupable. Donc c'est une des raisons pour lesquelles elle ne porte pas plainte. Parce qu'en fait, la culpabilité, c'est elle qui la porte pour pouvoir se conserver quelque part dans la tête un père.
L'image. Ouais, et il y a ce phénomène de terreur, et de, d'amour et de haine aussi. Parce qu'il y a quand même, il peut quand même y avoir l'amour du père.
C'est-à-dire que c'est la haine et l'amour sont très, très, très mélangés et c'est des sentiments très difficiles à départager. Et en fait, dans tout le travail après qu'on doit faire en étant adulte, c'est justement ce travail de tri. Et en fait, moi, je ressens maintenant, par exemple, que je peux tout à fait concevoir et dire, et je sais que j'ai eu un bon père qui m'a aimé, qui était tendre, etc. Et dans cet homme-là, pourtant, il y avait aussi le monstre qui m'a agressé, qui m'a détruite, etc. Et les deux cohabitaient. Mais pendant qu'on le vit, en fait, c'est trop impossible, tous ces sentiments mélangés à démêler, et il faut énormément de temps. Et c'est pour ça qu'on n'a pas porté plainte avant. Moi, par exemple, j'ai écrit mon livre, ma fille avait 15 ans, et moi j'ai été abusée à 15 ans. Et en fait, il a fallu tout ce temps pour que je prenne vraiment conscience de tout ce qui s'était passé pour moi. Le fait de voir ma fille à cet âge-là, comme moi j'étais... En fait, il y a une espèce de moment crucial pour d'autres femmes, c'est quand elles ont leur premier enfant. Tout d'un coup, il faut absolument résoudre ce problème. Alors que jusqu'à présent, quelquefois, on est dans l'amnésie, on est dans
la survie aussi.
Oui, dans la survie, aussi. Ça fait que vous pouvez douter de temps en temps, en disant, mais peut-être que j'ai rêvé. Enfin,
ou peut-être que j'ai bien voulu inconsciemment.
Non.
Non.
C'est ce que les psys disent, mais on en parlera tout à l'heure.
C'est pas nous. Non, ils disent pas ça. Non, il y a parfois des amnésies totales. Et effectivement, à l'occasion d'un deuil ou d'une naissance ou de.
Tout revient, tout refait surface.
Oui, ou d'une date anniversaire ou de quelqu'un d'autre qui s'effondre dans la famille. Enfin, d'un événement déclencheur, le voile se lève et la mémoire du traumatisme et des agressions revient. Et ça, c'est
on va écouter un petit peu de musique là, parce que ça fait un moment qu'on parle. Vous écoutez Femmes Libres sur Radio Libertaire, en compagnie donc de Eva Thomas pour Le Sang des Mots. C'est chez Desclée de Brouwer, donc il est question de l'inceste, et de Martine et Dorothée de l'association Arévi. Donc Arévi, c'est...
Alors Arévi, ça veut dire action-recherche et échange entre victimes de l'inceste, et on en parlera tout à l'heure.